philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard le 28 mars 90.
Est-il exact de dire que l'union affective, l'amour, est finalisée par l'union effective? Non, ce n'est pas exact de dire ça. L'union affective n'a-t-elle pas en elle-même un absolu qui fait qu'elle ne peut pas être finalisée par autre chose qu'elle-même? Non. Elle n'a pas un absolu. L'absolu, c'est le bien que j'aime. C'est pas l'union affective. L'union affective est encore autre chose. C'est le bien que je cherche. Le seul absolu dans l'amour, c'est celui que j'aime. C'est pas l'amour. Vous voyez, entelekeia, energeia. On fait ça très facilement, et ça c'est encore la fumologie. Pour le fumologue, c'est le vécu qui est l'absolu, et pas pour nous. Autrement, vous êtes dans un gargarisme psychologique et philosophique, vous gargarisez tout le temps en disant j'aime, j'aime, j'aime. Non, 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 non. Et je suis heureux parce que j'aime. Très bien. Mais au bout d'un certain temps, l'amour s'use. Qu'est-ce qui ne s'use pas? C'est l'ami. C'est celui qu'on aime. C'est le bien. C'est Dieu. Oui, c'est très intéressant ça alors, de voir comment l'union affective n'a-t-elle pas en elle-même un absolu? Un absolu relatif. L'union affective est tout entière ordonnée à celui que j'aime. Donc alors un absolu relatif, vous voyez, c'est un absolu. C'est pas tout à fait la même chose. Qui fait qu'elle ne peut pas être finalisée par autre chose qu'elle-même. Elle est finalisée par le bien. Au moins au niveau d'un amour spirituel. Union affective et union effective sont-elles toutes les deux finalisées par l'ami? Oui. Vous voyez? Donc c'est plus l'absolu. Ce qui est finalisé par l'ami. Union affective sont finalisées par l'ami. Union affective sont des moments de l'analyse. Donc ne comprenez pas du tout une juxtaposition, comme si quand l'union affective était là, l'union affective disparaît. Non, l'union affective demeure. Et elle demeure de plus en plus. L'union affective, pour permettre que l'union affective soit plus intense. Et l'union affective est plus intense quand l'union affective est là. Oui, c'est ça l'analyse. L'analyse n'est pas une description avec une juxtaposition un moment après un autre moment. Là, je suis dans le devenir. L'analyse structe. Elle essaie de saisir les causes différentes. Donc, on pénètre dans la réalité. C'est la structure de la chose que je saisis. Et dans l'amour, il y a l'union affective. Et il y a l'union affective. L'amour implique les deux. Parce que l'amour n'est pas au niveau de l'intentionnalité. L'amour est ordonné à la réalité. Alors, vous voyez bien, l'union effective est un effet de l'union affective. Vous pourriez dire « finis effectus ». Oui, d'une certaine manière, c'est très vrai. L'union affective est pour l'union effective, pour « j'aime », pour aimer plus. Hein, oui, pour aimer avec tout le réalisme de l'amour. Donc, l'union affective est ordonnée à l'union effective, pas finalisée, ordonnée. Puisqu'elle est cause de l'union affective, effective. Et elle est présente quand l'union affective est là. Et j'aime encore plus. Faites appel à n'importe quelle expérience d'amour que vous avez. Hein. L'amour du chocolat, quoi, dans le carême, c'est très fort. Voyez, un amour exaspéré, parce qu'il n'y en a jamais là, jamais là. Alors, vous voyez, donc, l'amour affectif peut pas se contenter de l'affectivité. Ce que je vous ai déjà dit, petit déjeuner du matin, vous êtes en... toute la nuit, vous êtes resté sur la route, vous arrivez d'un petit village, et vous voyez à 4 heures du matin, petite lumière, c'est la boulangerie. Au bout d'une demi-heure, oh, ce que ça sent bon. Union affective avec le pain frais. Je me contente de ça. Non, si vous êtes un tout petit peu réaliste, vous codiez sur la fenêtre. Donne-moi un peu de pain frais. L'union effective, vous mangez ce pain frais. Et au moment où vous l'avez mangé, vous l'aimez encore plus. Parce qu'il est bon. Oui, l'union affective, l'union affective. S'il n'y avait pas eu l'union affective, vous n'auriez pas tapé la fenêtre. L'union affective vous donne une audace que vous n'auriez pas autrement. Mais c'est ça l'analyse. On analyse une réalité que nous expérimentons. Et nous essayons de comprendre l'ordre qui existe entre l'union affective et l'union affective. L'union affective n'a-t-elle pas en elle-même un absolu qui fait qu'elle ne peut pas être finalisée par autre chose qu'elle-même? Alors le petit déjeuner intentionnel, comme ça sent bon, c'est suffisant, je suis heureux. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas finalisé par ça. Le jour où vous êtes finalisé par l'union affective, vous perdez le réalisme de l'amour. Vous idéalisez. Vous idéalisez l'amour. Idéaliser l'amour, c'est de revenir à l'intentionnalité. Et de faire que l'intentionnalité suffit. Ça devient monstrueux. C'est monstrueux le petit déjeuner. Uniquement de sentir l'odeur de ce pain merveilleux. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Il y a des idéalistes qui sont comme ça. Et le père Garrigou, qui pourtant voulait être réaliste, j'ai vu les plans, ça me suffit. Ça, ça vous tombe les bras. Il faut, toujours détecter l'idéalisme pour lutter contre, parce qu'on est dans un bain d'idéalisme depuis 400 ans. Vous devez lutter contre ce bain idéaliste depuis 400 ans, même plus, depuis le 14e siècle. Alors c'est dur de lutter contre ça. L'union affective, la vérité, elle est in coda à la fin. L'union affective et l'union affective sont-elles tous les deux finalisées par l'ami? Oui. Ils sont finalisés par l'ami et ils proviennent de l'ami. C'est l'ami que je connais, que j'aime, qui produit en moi l'union affective et qui produit en moi l'union affective. Je suis attiré par lui. Donc, il est à la fois fin. Et il détermine. Alors continuons les effets de l'amour. Article 2. Je crois que c'est suffisant pour l'union affective, hein, vous avez vu. L'existence mutuelle en autrui est-elle un effet de l'amour? Il est écrit dans Saint Jean, Jean théologien, celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. Or la charité, c'est l'amour de Dieu. Et donc, pour la même raison, tout amour réalise cette inhabitation mutuelle de l'aimant et de l'aimé. Oui, on part d'un amour surnaturel pour universaliser l'effet de tout amour. Tout amour réalise cette existence mutuelle de l'aimé dans l'aimant, de l'aimant dans l'aimé. Alors, voici le raisonnement de saint Thomas. Que l'aimant soit dans l'aimé, et inversement, cela peut s'entendre au double point de vue de la connaissance et de l'affectivité. Au premier point de vue, on dit que l'aimé est dans l'aimant. en tant qu'il demeure dans la connaissance de celui-ci. Selon ces mots de l'apôtre, je vous porte dans mon cœur. L'aimant, à son tour, est dans l'aimé, au point de vue cognoscitif, en tant qu'il ne se satisfait pas d'une connaissance superficielle de l'aimé, mais s'efforce de scruter à fond tout ce qui est de lui, et de pénétrer ainsi dans son intimité. C'est le sens de ces mots appliqués à l'Esprit Saint qui est l'amour de Dieu. Il pénètre même dans les profondeurs de Dieu. Donc, au point de vue affectif, on dit que l'aimé est dans l'aimant, en tant qu'il est dans le cœur de celui, de celui-ci, par une sorte de complaisance. L'aimant se réjouit alors dans l'aimé, ou dans ses biens, quand ils sont présents. S'ils sont absents, son désir se porte vers l'aimé lui-même, par l'amour de la de convoitise, ou vers les biens qu'il lui veut par l'amour d'amitié. Et cela, non pour quelque motif extrinsèque, comme lorsqu'on désire une chose à cause d'une autre, ou que l'on veut du bien à quelqu'un en vue d'une autre chose, mais à cause de la complaisance pour l'aimer, enracinée dans le cœur. C'est pourquoi l'amour est appelé intime, et on parle des entrailles de la charité. Inversement, l'aimant est dans l'aimé, mais différemment, selon qu'il y a amour de convoitise ou amour d'amitié. Alors, traduisez toujours amour de convoitise, l'amour captatif, l'amour d'amitié, l'amour oblatif. Ça correspond à peu près à ça. Pas tout à fait. D'un côté, c'est le conditionnement, et de l'autre côté, c'est l'aspect de l'analyse, mais ça correspond à peu près. Mais captatif, on voit très bien. C'est l'amour de convoitise. On prend pour soi. Oui. Et l'amour oblatif, l'amour d'amitié, est extatique. En effet, l'amour de convoitise ne se repose pas dans quelque possession ou jouissance extérieure et superficielle de l'aimer, mais il cherche à le posséder parfaitement et à le joindre, pour ainsi dire, en son plus intime. Dans l'amour d'amitié, au contraire, l'aimant est dans l'aimer, en ce sens qu'il considère les biens ou les mots de son ami comme siens, et la volonté de son ami comme la sienne propre, de telle sorte qu'il paraît recevoir et éprouver lui-même en son ami les biens et les mots. C'est pour cela que, d'après Aristote, le trait caractéristique des amis est de vouloir les mêmes choses, d'avoir les mêmes peines et les mêmes joies. Vous voyez qu'Aristote et Saint Jean sont mis dans le même sac ici. Hein? Remarquez bien ça. Hein? Et il s'agit de l'amour. C'est très... Ça vous fait comprendre tout le cœur de saint Thomas. Il regarde Jean, et puis il explique par Aristote. Il explique Jean par Aristote. Et là, vous avez Thomas d'Aquin. Quand vous ferez une conférence sur Thomas d'Aquin, vous prendrez cet article. Et vous l'analyserez. Vous direz, voilà. Voilà saint Thomas, cet intellectuel impénitent. Et voyez ce qu'il est. Là, vous saisissez le cœur de Thomas d'Aquin. Le cœur du saint et le cœur du philosophe. C'est assez extraordinaire. Le cœur du saint Jean, le cœur du philosophe Aristote. Aristote lui-même caractérise des amis. C'est pour cela que, d'après Aristote, le trait caractéristique des amis est de vouloir les mêmes choses, d'avoir les mêmes peines et les mêmes joies. Ainsi donc, en tant qu'il considère comme sien ce qui est de son ami, l'aimant semble être en celui qu'il aime et comme identifié en lui. Au contraire, en tant qu'il veut et agit pour son ami comme pour soi-même, le considérant comme un avec soi, c'est l'aimé qui est dans l'aimant. Il y a trois manières d'entendre cette mutuelle inhérence. Par l'amour d'amitié, c'est celle de l'amour partagé. Modo mutua inesio intelligi in amore amicitie. Secundum viam redamationis. Viam redamationis. Alors on a traduit, c'est celle de l'amour partagé. Les amis s'aiment l'un l'autre, se veulent et se font mutuellement du bien. Donc il y a une troisième manière d'entendre cette mutualisation. Par l'amour d'amitié, c'est celle de l'amour partagé. Les amis s'aiment l'un l'autre, se veulent et se font mutuellement du bien. Donc, vous voyez comment saint Thomas fait cette analyse. Ce qu'il appelle la mutua inesio. C'est très difficile à traduire. La mutua inesio. Inesio, en français, c'est très difficile à traduire. Le fait inesio. Ezio, c'est la mutuelle. C'est beaucoup plus que l'adhérence. C'est pénétrer dans, être dans, dans l'unité. La mutuelle inesio. Alors saint Thomas le voit du côté de la connaissance, du côté de l'amour. Et en troisième lieu, tertio modo, in amore amitié, secundum viam redamationis. Redamationis. Très difficile à traduire. Je ne suis pas satisfait de dire l'amour partagé. Personne n'a ici la nouvelle traduction, alors. Vous l'avez ? Alors qu'est-ce qu'il dit ? Prenez la fin de l'article 2, la fin. Et vous savez, il y a une troisième manière d'entendre cette mutuelle inhérence par l'amour d'amitié. Secunda viam redamationis. Il traduit comment ?
Il y a une troisième manière d'entendre cette mutuelle inhabitation.
Oui, oui. Non, et après ?
Par l'amour d'amitié. C'est celle de l'amour.
C'est celle
de l'amour qui répond à l'amour.
Ouais.
Les amis s'aiment l'un l'autre, se veulent et se font mutuellement du bien.
Oui, donc il traduit pas. La mutuelle et l'habitation rédamationniste, c'est pas la mutuelle. Mais il y a un peu, il fait un petit mélange entre les deux. Parce que voyez, on explique la mutuelle inesio par la viam rédamationniste. Par la voix.
Il dit que c'est l'amour qui répond à l'amour pour traduire comme ça.
Oui, mais c'est pas ça. Redamationis, c'est pas l'amour. Voyez, il y a une voix. Je vais chercher ça. Ceux qui sont beaux en latin médiéval. Hein. Latin médiéval. C'est très difficile à traduire. La voix, dire par, voyez, par l'amour partagé, c'est celle de l'amour partagé. Il y a une voie à l'inésio. L'inésio, c'est un résultat, c'est un effet. Alors, traduire l'inésio par l'inhabitation, c'est déjà Saint Jean. Vous voyez ? C'est très difficile. C'est quand on voit, n'est-ce pas ? C'est du reste, il ne faut pas l'oublier. C'est que pour traduire l'amour, on n'a pas de mots. Parmi vous est le meilleur en latin médiéval. C'est lui. Oui, puisqu'il n'ose pas le dire. Je comprends. Alors essayez de trouver ça. La viabre est absolue. Les trois. que vous comprenez ce que c'est, ce que ça représente, cet effet d'amour, cette inhésion mutuelle. L'amour fait l'unité. Alors l'amour pousse à l'unité par la connaissance. L'amour pousse à l'unité par l'affectivité. L'union affective. Alors on voit très bien comment la convoitise, l'amour de concupiscence, veut l'unité, mais c'est très simple. On fait l'unité en mangeant l'autre. La meilleure unité qu'il y a, c'est que je te mange. Je veux te manger. Vous savez, la mère qui dit ça à son petit, je t'aime, je te mange. Je t'aime tellement que je veux te manger. C'est la concupiscence qui mange. Et je te fais un très grand honneur, puisque tu habiteras en moi. Je te mange. Et puis l'amour d'amitié qui fait, je t'aime tellement que je me donne totalement. Oui, je m'offre pour habiter en toi. Il n'y a que là que je désire habiter, c'est en toi. C'est très curieux ça. Et c'est très intéressant de voir ce double mouvement constant. Alors saint Thomas le fait toujours par les deux extrêmes, les deux formes de l'amour. Mais c'est ça qui est intéressant. Vous savez donc, dans cet article, si vous comprenez bien, premièrement, on est en théologie. On part de saint Jean. Et le grand texte de saint Jean que saint Thomas alors saisit ici et veut commenter, c'est le point de vue de saint Jean qui dit « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » Donc c'est « manere ».« Manere in Deo ». Et l'inverse, Dieu en moi. Je demeure en Dieu et Dieu en moi. Deuxièmement, pour expliquer, on fait appel à Aristote, l'amour d'amitié. Troisièmement, l'amour de concupiscence. Mais comme c'est intéressant, cette manière de saint Thomas de raisonner. L'amour d'amitié, l'amour divin, est au-dessus de ces deux modes, de ces deux modalités, de l'amour humain. Amour d'amitié, amour de concupiscence, il est au-dessus. Il est éminemment amour d'amitié. Il est éminemment amour de concupiscence. Les deux. C'est pour ça que de fait, dans son analyse, il emploie les deux. Parce qu'un seul ne suffit pas. Et c'est très beau, vous voyez, c'est toujours les deux analogies. Il faut toujours deux analogies pour saisir le mystère qui est au-delà. Autrement, on prolonge. Et alors on veut, comme je disais ce matin, on veut absorber le mot douce, la modalité dans la ratio. Et on croit qu'en absorbant le mot tous dans la ratio, on va le plus loin possible, pas du tout. Le mode éminent surnaturel, ce mode éminent surnaturel, n'est pas la ratio d'amour. La ratio amoris. Au-delà de tous les modes, mais n'existe pas. L'amour existe toujours selon un certain mode, ou divin, ou humain, amour d'amitié, amour de concupiscence. Mais c'est toujours l'amour. Et c'est ça qui permet l'analogie. Oui. Vous avez là un article merveilleux de saint Thomas pour comprendre ce que c'est que la théologie. Parce que vous avez la ratio amoris qui dépasse ces trois modes. Et ces trois modes me font comprendre que l'effet propre de l'amour, c'est la mutua inezio. Alors, on va voir les réponses aux objections dans un autre, c'est d'être contenu en lui.
Cette inhésion se situe à un double titre.
connaissance et au point de vue affectif. Au point de vue connaissance, parce que celui qui aime l'ami veut le connaître de plus en plus. Donc, il veut le connaître de mieux en mieux. Il l'assimile de mieux en mieux. Et celui qui est aimé parce qu'il l'aime, lui aussi veut le connaître de plus en plus. Donc, il y a à la fois du côté de la connaissance et du côté de l'affectivité le double mouvement de réciprocité. Et alors, c'est là où l'idée de partage, pour moi, ne va pas tout à fait. Parce qu'un ami ne partage pas, il se donne totalement. L'idée de partage est encore quantitatif. Et c'est la tarte qu'on partage. Et on sait que quand on partage, plus on est, la part diminue. Regardez les gosses, quand on partage une tarte, faites ça, laissez, dans un gosse, vous partagez la tarte. Il regarde combien il y a de parts. Et les désolés qu'il y en a de plus. S'il y en avait moins, les parts seraient plus grosses. Vous voyez ? Eh bien, dans l'amour, on ne partage pas. C'est Froissart qui avait fait un petit truc dans le Figaro une fois. Dieu ne partage rien. Je ne vois pas pourquoi on parle tout le temps de partage. Parce que Dieu se donne totalement. L'amour fait qu'on se donne totalement. Il n'y a pas de partage. Parler de réciprocité. Mais on s'invite mutuellement entre amis. On s'invite mutuellement. Mais on ne partage pas. Tu es mon ami. Alors, on va partager le repas en deux. Tu prendras la première partie, moi je prendrai l'autre. Ça ne se fait pas comme ça. On invite à la table. Et donc, tout ce qui est sur la table est à vous. Pas du tout la même idée. Il faut être attentif à ça, parce que ça, c'est quantitatif. C'est commercial. Donc, vous voyez bien comment il peut y avoir inhésion mutuelle. Deuxième objection. Rien ne peut pénétrer à l'intérieur d'un tout sans le diviser. Or, diviser ce qui est un dans la réalité, est affaire de raison et non de tendance affective et d'amour. Diviser, c'est le point de départ de l'analyse. Pas d'analyse sans division. Ça, c'est sûr. Il faut diviser pour analyser. Donc, diviser est affaire de raison. Tout à fait juste. Et non pas affaire de tendance affective. L'affectivité refuse analyse. Saisie de la raison précède le mouvement de l'amour. Appréhension, l'appréhension de la raison prejudice affectum amoris. Et ainsi de même que la raison s'enquiert avec soin, l'affection de l'aimant s'insinue au cœur de l'aimé. Et ideo sicut ratio disquirit ita affectus amoris sub intrat in amatum. Je comprends que c'est difficile à traduire ça. Alors, l'appréhension de la raison précède le mouvement d'amour, et ainsi de même que la raison s'enquiert avec soin discourit. Discours avec soin, s'enquiert. J'aime mieux le discourit. Ainsi, l'affection de l'aimant s'insinue au cœur de l'aimé. c'est la division. Et alors, ça va contre le mouvement affectif, c'est très vrai. Et c'est pour ça que le mouvement affectif, ce n'est pas la division. C'est ce que saint Thomas appelle ici le point de vue subintrat.
Séparer amour et intelligence. Je sépare amour On peut dire que dans l'amour de convoitise, le bien est aimé en lui-même et pour le plaisir. Et dans l'amour d'amitié, le bien, l'ami, est aimé en lui-même et pour lui-même. Est-ce que c'est ça la différence?
Oui, dans la concupiscence, le bien attire. Mais il attire de façon sensible, passionnelle, donc par ses qualités. Et le bien est aimé dans son apparence, dans sa manifestation. Il est aimé pour moi. Donc il n'est pas aimé en lui-même. L'amour de concupiscence va toujours beaucoup moins loin. Il est toujours un peu extérieur. Il demeure un peu dans les apparences. Tandis que dans l'amour d'amitié, vous aimez le bien pour lui-même. C'est évident que c'est pour qui manifeste le mieux. Le dia grec, par et pour. C'est le père Feuillet qui dit ça. Quand vous trouvez dans Saint Jean le dia, alors vous traduisez par. Et le père Feuillet dit pour. Vous mettez par et pour. Le dia grec de Saint Jean. Par et pour. Vous ne pouvez pas le traduire uniquement par le point de vue par. Vous traduisez aussi par pour. Article 3. L'extase est-elle un effet de l'amour? C'est l'intase, donc on demeure ici. Denis écrit que l'amour divin produit l'extase.